Vous êtes bien dans notre émission Underscore. Avec cette nouvelle année, je me sens comme une petite vieille, et oui voilà bientôt 3 ans que nous occupons l'antenne. Mais après tout le rétro est à la mode.
Salut.
Bonjour Cécile, on va regarder dans le rétro justement.
Oh oui, on va regarder, on va vérifier ce qui s'est passé avant. Mais allons nous parler comme ça tout le temps ?
J'espère pas parce que c'est fatigue.
Ah oui, non mais je suis d'accord avec toi, je suis déjà vieille dans ce cas-là. Eh bien, nous allons tout d'abord passer par l'actualité et puis aussi bonjour les auditeurs.
Bonjour Cécile, bonjour les auditeurs.
On oublie un petit peu tout ça, c'est l'Alzheimer.
non mais c'est les fêtes, hein. c'est du boulot. Hein.
Mais alors, oui. Alors...
Disparition de Nancy Grace Roman, c'était la première femme à exercer des responsabilités de direction au sein de la NASA. Elle a dirigé notamment la création du télescope spatial Hubble. Donc voilà.
Comme une grande femme encore. Ouais. Allez, sortez vos pinces. La sortie de Gambas 3.12 arrive.
Et ouais, donc il y a un article sur Linux.fr qui détaille les nouveautés de ce basique pour GNU Linux. Il y a plein de choses intéressantes dedans. J'ai essayé de le porter sur iQOO, mais j'ai pas fini encore.
Waouh, une version gilet jaune de Notepad++ est sortie.
Oui, c'est la version 7.6.2 de cet éditeur de texte libre pour Windows, qui donc habille en effet le caméléon de son icône d'un gilet très visible.
Il est
très mignon le caméléon.
Il est mignon. Alors Scratch 3.0 est sorti.
Ouais, donc pour rappel, Scratch c'est un système qui permet de programmer visuellement en fait le comportement de petits robots, entre autres. Et de faire d'expérimenter de la programmation quand on est un petit enfant.
Happy birthday!
Et du coup, en plus, c'est bien parce qu'il se débarrasse enfin de Flash. Donc, ça fait une raison de plus pour se passer de Flash.
Carrément.
Et ouais, happy birthday parce que Blender a...
25 ans.
Ouais,
25
bravo.
Ans, tu te rends compte? 25 ans.
Et ouais.
On fait toujours des bonnes choses hein, dans ces vieux pots. Et l'horoscope du web 2019?
Ouais, pour bien commencer l'année, j'ai trouvé cet article sympa qui n'est pas sans rappeler nos astrologiques. Un exemple, 6 admins... Manger plus de brocolis, cela augmentera sensiblement vos chances de survie en milieu urbain. Pour les serveurs, je ne sais pas trop. Une petite incantation en l'honneur du Vim lors de chaque pleine lune pourra vous aider. Pensez à faire les mises à jour. C'est pas mal, hein.
Je vois. Oh, les plans de l'équipe Thunderbird pour 2019 hein.
Oui, la nouvelle équipe de Thunderbird nous détaille ses plans pour l'année qui vient, entre autres sur les performances, parce que c'est vrai que ça rame un petit peu en ce moment, ce lecteur de mail, mais c'est quand même très pratique, et on espère qu'ils vont faire du bon boulot là-dessus.
Ouais, déjà, je crois qu'ils devaient être abandonnés bientôt, non ?
En fait, il y a Mozilla donc, qui gérait en fait, le développement, qui avait annoncé qu'ils abandonnaient, et puis en fait, les gens ont râlé. Donc ils ont dit, bon non, on va pas abandonner, mais enfin, on va juste le garder sous le coude, mais c'est vous qui vous débrouillez. Donc du coup, il a fallu qu'ils trouvent des gens pour maintenir et pour rajouter des fonctions et tout. Donc ils ont trouvé une nouvelle équipe, mais du coup, il va falloir qu'ils se mettent au travail maintenant.
Le rapport de Mozilla Open Source Support est arrivé.
Ce programme vise à aider des projets de logiciels libres, donc justement plus de 1 000 euros ont été distribués en dotation à plus de 40 projets open source en 2018. Pour la première fois depuis le début du programme, Mozilla a reçu la majorité des candidatures de l'extérieur des États-Unis, donc c'est bien, c'est plus diversifié.
Bien, l'Inde veut faire censurer Internet par des intermédiaires techniques.
Ouais, ça c'est pas bien par contre, c'est une mauvaise idée et Mozilla leur a répondu justement que c'était une mauvaise idée.
Ouais. Je sais qu'en Afrique aussi, il y a certains pays qui veulent censurer.
Oui, là-bas, c'est un classique.
L'architecture MIPS devient open source.
Ouais, c'est prévu pour le début de l'année, donc on attend ça. Alors en fait, c'est surtout pour concurrencer en fait l'architecture ouverte RISC-V, qui menace un peu sa seconde place en embarqué, parce que jusqu'à maintenant, il y avait ARM, qui est un peu partout, hein, dans vos téléphones et tout. Il y avait MIPS en deuxième, et puis il y a RISC-V qui arrive, et donc ils commencent à avoir peur, et donc ils disent, bon, on va tout mettre en open source, comme ça tout le monde va l'utiliser, ou pas, on verra bien.
Bah ouais. Oh tiens, les termes francisés pour parler d'IA.
La commission d'enrichissement de la langue française a publié au journal officiel les traductions officielles des derniers termes relatifs à l'intelligence artificielle.
Ah oui, donc il ne faut plus dire chatbot.
Chatbot, ouais, mais dialogueur ou agent de dialogue. Mais ouais, enfin, sauf qu'ils sont pas fichus de lire Wikipédia parce qu'en fait, il y a déjà un nom pour ça s'appelle agent conversationnel.
Eh oui.
Sauf que personne l'utilise parce que c'est trop long. Et du coup, dialogueur, c'est pas bien plus court, en fait. Mais bon.
Ils savent pas faire.
Ouais.
Ami rejoint LVFS.
Ouais, alors attends, je t'explique. Donc, AMI, c'est American...
Oh purée, tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était moi qui parlais en combat.
Donc oui, AMI, en fait, c'est... AMI, c'est American Megatrends Inc. Donc, c'est un des gros éditeurs de BIOS. Donc le firmware, c'est le truc qui démarre en fait les PC avant de lancer le système d'exploitation. Et maintenant c'est EFI, mais c'est pareil, c'est un firmware aussi. Et qui fournit donc par exemple Asus, Clevo, Intel, AMD, tout ça. Et jusqu'à présent, en fait, pour pouvoir mettre à jour le BIOS sur la carte mère, il fallait soit être sous Windows
et booter
et
sur
lancer
une disquette.
Un programme pour Windows, voilà. Ou
booter
soit
sur
booter
une
sur une disquette ou une clé USB sous FreeDOS avec un exécutable à lancer et tout, fallait croiser les doigts, voilà.
Non mais déjà, il y a des gens qui savent encore ce que c'est une disquette.
Oui, bah c'est ça, déjà, ouais. Ou alors bidouiller avec Flash ROM, à condition de pouvoir trouver les données dans l'exécutable, parce que souvent c'est un programme à lancer, mais t'as pas le, en fait, la portion, juste les données pour mettre dans le... dans la ROM en fait, alors que Flash ROM il s'est très bien se débrouiller avec ça, mais non, c'est trop facile. LVFS en fait, c'est Linux Vendor Firmware Service, c'est un projet permettant de mettre à jour les BIOS directement depuis du Linux, avec un outil et tout, et des trucs plus ou moins standardisés. Et donc les BIOS AMI devraient pouvoir maintenant être mis à jour proprement depuis Linux, et peut-être bientôt Haiku si j'arrive à porter ça.
Bien, un protocole pour succéder à l'IMAP.
Alors, nommé JMAP, ouais, ils sont pas trop foulés, il est en cours de standardisation à l'IETF. Alors, ça fait un petit moment, et puis il a bien évolué, et peut-être qu'il va sortir bientôt. Et il est pensé pour être plus léger, plus évolutif, par exemple, pour inclure le support direct des calendriers, et pas avoir besoin d'un autre protocole séparé, e-calendar, tout ça, CalDAV et tout.
L'Union européenne finance une chasse aux bugs dans 15 logiciels libres.
Ouais, c'est pas la première année qu'ils font ça, donc ça c'est bien, parce qu'en fait, ils s'en servent eux, ils en ont besoin, donc ils ont besoin qu'il y ait moins de trous dans les logiciels libres qu'ils utilisent, donc ils payent pour ça, et c'est un très bon exemple.
Une petite pause musicale pour nous dérouiller nos vieux os de vieux, parce que effectivement, nous allons parler après de rétro-computing.
Et zou.
Mama,
bien, dis-moi, on a pu dérouiller nos vieux os aujourd'hui ?
Passe-moi la burette d'huile encore un petit peu, là.
Un petit peu, oui, parce que c'était Apollo 440 à Can't Stop the Rock.
Ah ouais, je croyais que c'était le nom d'une carte accélératrice pour Amiga.
Et non, ouais. Et non. Alors, le sujet du jour, ce sera sur le rétro-computing.
Ouais, les vieux ordi. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai récupéré la gestion de la DevRoom rétro-computing au FOSDEM à Bruxelles en février prochain. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est justement que cette pratique du rétro-computing.
Ouais.
Donc, d'après mon ami Wikipédia, le rétro-computing ou rétro-informatique est une activité consistant à utiliser du matériel et des logiciels informatiques obsolètes.
Oh, obsolètes !
Il s'agit d'un loisir ludique et ou intellectuel. Concrètement, ouais. Il peut s'agir de se divertir avec des jeux vidéo anciens, rétro gaming, ou de s'amuser à faire fonctionner des ordinateurs généralement jugés inutilisables.
Eh oui, comme quoi, c'est pas impossible.
Eh non, non. Alors donc, le rétro gaming, ça c'est l'aspect le plus connu. Hein. C'est ce que font par exemple nos amis de GameStalgie qui organisent des tournois de jeux sur des consoles de vidéo plus ou moins récentes.
Ouais, plus ou moins.
Plus ou moins, hein, ouais. C'est vrai que pour eux, elles sont un peu anciennes parce qu'ils sont un peu plus jeunes que nous.
Bien sûr.
Et puis, il n'y a pas que ça. Donc, il y a l'utilisation de vieux ordi. Alors, il y a beaucoup de raisons qui pourraient... possible pour pouvoir utiliser un vieux matériel. Alors, il y a la nostalgie, hein, parce que quand on a grandi avec, on se dit « Ah ouais, mais c'était bien, c'était mieux avant. »
Ouais. Alors, des fois, tu retrouves effectivement tes ordinateurs de quand tu étais petit, ou voilà. Alors tu les as gardés.
C'est ça. Hein, ils sont un peu plus jaunes, un peu plus poussiéreux, mais bon. Il y a le fun aussi, parce que ouais, ça peut être amusant quand même. Il y a l'efficacité, parce que oui, même si le disque dur... et le reste sont plus lents, les logiciels sont aussi plus simples, sans fioritures inutiles, et parfois au final ils sont toujours plus rapides que les nouveaux, parce que dans les nouveaux logiciels en fait on rajoute plein de trucs, ouais, qui servent à quasiment personne, mais qui alourdissent le truc, donc en fait depuis 30 ans en fait les ordi ils mettent toujours autant de temps voire plus à démarrer, et alors qu'en fait ils sont bien plus puissants, c'est bizarre, hein.
J'ajouterais aussi au niveau de l'utilisation de l'usage du rétro-computing, en fait, il y a aussi une notion de conservation pour, ouais, garder en état des vieilles machines, et aussi une transmission auprès de la jeune génération qui profite aussi de découvrir comment c'était l'informatique avant l'arrivée des tablettes, des téléphones, des smartphones.
Ouais, il y avait, voilà, un interrupteur, il fallait brancher les câbles.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ouais. Et puis alors, il y a la sécurité aussi, parce que rigolez pas, mais... un Amiga, il n'y a pas Internet sur un Amiga, donc déjà c'est plus compliqué pour... Enfin, par défaut, hein.
Par défaut.
Par défaut, ça peut se rajouter aussi, mais...
Bien sûr,
donc,
que
c'est pas
ça
des
rajoute.
Machines qui sont connectées, c'est pas des machines qui ont tout un tas de systèmes de protection mémoire, mais du coup, qui sont plus ou moins fiables. On vous a parlé de Spectre et, ouais, compagnie, donc sur les très vieux processeurs, en fait, il n'y a pas ces problèmes-là, il y en a d'autres, mais...
Alors justement, en termes de sécurité, j'ai même entendu dire que certains, quand ils utilisent leur Amiga, mais de manière récente, eh bien sur Internet, ils se retrouvent assez anonymes, hein, et beaucoup plus tranquilles que nous qui sommes sur des ordinateurs qui sont épiés.
Quand ton navigateur, il ne sait pas utiliser JavaScript, il n'y a pas JavaScript qui tourne, qui t'espionne, quoi.
C'est sûr.
Voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, hein, sur ces vieux ordi.
Ou ces vieilles consoles.
Ou ces vieilles consoles. On peut développer, par exemple, de nouveaux logiciels. Il y a encore des gens qui écrivent de nouveaux logiciels pour ces plateformes. Alors, d'autres tentent de porter aussi des logiciels existants. C'est loin d'être facile parce que, comme je l'ai dit, de plus en plus de logiciels ont de plus en plus de dépendances et veulent de plus en plus de fonctions et tout. Et on se retrouve à avoir un truc qui déjà rentre pas en mémoire parce que c'est trop gros. Donc, ça permet de bénéficier de techniques et d'outils qui n'existaient pas à l'époque. Par exemple, en 30 ans, les compilateurs ont fait énormément de progrès. Et on peut utiliser un PC actuel pour optimiser un programme qui va tourner sur une machine plus ancienne. C'est ce qu'on appelle la compilation croisée ou cross-compilation. On compile un programme, c'est un logiciel comme un autre, on compile un compilateur, parce qu'en fait le compilateur c'est un logiciel comme un autre, c'est juste qu'il sert à produire d'autres programmes derrière.
C'est bien, tu fais quoi ? Ah ben je compile mon compilateur.
Je compile mon compilateur, ouais,
d'accord.
Ouais, j'ai des souvenirs de nuit passées à compiler un compilateur pour TI-92.
Waouh. Voilà.
Donc on compile un compilateur pour qu'il cible par exemple les machines Atari ou Mint, alors non, pas la distribution GNU Linux, hein, mais pour qu'il fonctionne sous GNU Linux, c'est-à-dire on le lance sur son PC sous Linux pour créer des exécutables pour Atari. Et de cette façon, on peut utiliser des compilateurs qui sont bien trop gros pour tourner sur ces machines, hein, parce que bah, GCC, c'est quand même un gros monstre, il a besoin de méga de mémoire et tout ça. Et on peut le lancer donc sur un PC nouvelle génération pour compiler très vite et voir si ça compile, corriger, etc. et faire tout un tas de choses qui prendraient des heures, voire des jours sur les machines, machines qu'on cible en fait. C'est ce qu'utilisent les développeurs de NetSurf, le petit navigateur web qui tourne sur plein d'antiquités. Ils maintiennent un ensemble d'outils de compilation croisés pour RISC-OS, Atari, Amiga, entre autres. En fait, ils collectent en fait, hein, pas mal de patchs qui sont gérés par d'autres et ils mettent ça en forme pour que ce soit facile à compiler et à installer sur sa machine. Et l'autre jour, j'ai même trouvé un portage de GCC pour macOS 6. Donc pour les
comme
Mac
quoi, hein.
68K et PowerPC, donc les vieux, ça tombe bien, j'ai mon Mac LC3 qui remarche. Merci Fabugno pour la pile. et donc, GCC par exemple, c'est un compilateur qui est assez ancien. Alors l'avantage c'est qu'il supporte pas mal de cibles, parce qu'il supporte déjà le 68000 et plein d'autres vieux processeurs. Par contre, il est assez complexe à modifier, parce qu'il y a plein de scripts qui génèrent des machins, qui génèrent des bidules. Et il faut vraiment savoir quoi changer dans ce truc-là. Et il y a un autre par exemple comme LLVM qui est beaucoup plus récent, qui est écrit en C++, qui est très modulaire et tout, qui est facile à modifier, mais sauf que pour l'instant, il supporte pas les vieilles architectures, parce qu'il a été fait pour les architectures modernes, par Apple notamment. Mais certains travaillent à les ajouter, comme le support du Motorola 68000. Donc
ouais, qui sont utilisés dans les Atari, les Amiga, les Mac, puis Next par exemple.
Les Next aussi, voilà. Et puis d'autres encore préfèrent utiliser les langages de l'époque, les outils de l'époque et la machine de l'époque pour coder. D'abord, parce que c'est sympa aussi, hein, voilà. Comme Raja qui écrit des programmes en GFA basique. Coucou Raja. Bon, il triche un peu parce qu'il a une Firebee, donc c'est pas vraiment la machine d'époque, mais
oui,
bon,
ça
s'en rapproche le plus tout en passant pas 3 jours à compiler un truc. D'ailleurs, il produit notamment un client mail qui sait même chiffrer ses connexions, donc un truc totalement à jour.
Et oui, il y en a même qui osent utiliser des vieux logiciels de musique comme Fabugno sur Atari.
Avec Cubase, voilà, sur
avec
Atari.
Avec Cubase en version Atari, qui est très simplifié par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui, quoi.
Et oui, et puis, alors, parfois, il y a des bugs dans les logiciels, donc il faut essayer de corriger ça. C'est pas forcément évident quand on n'a pas les sources, mais on arrive toujours à trouver un truc. On peut aussi développer de nouveaux matériels. Alors, on vous a sûrement déjà parlé des émulateurs de lecteurs de disquettes. Hein, c'est vraiment ce qui est le plus répandu. Donc,
oui, aujourd'hui, on abandonne effectivement les disquettes pour les remplacer par des cartes mémoire. Hein.
Oui, parce que les lecteurs, en fait, c'est des mécaniques avec plein de courroies, de machins qui tombent en panne assez facilement. Et donc, on remplace juste le lecteur, en fait, par un petit boîtier. Où on met une carte SD ou une clé USB, et en fait qui va faire croire à l'ordinateur qu'il a bien une disquette dans un lecteur, et avec un petit bouton dessus, on peut choisir quelle disquette virtuelle on met dedans et tout, et
oui.
Ça change la vie. Hein.
L'intérêt, effectivement, c'est de pouvoir porter après entre les machines d'aujourd'hui et les anciennes machines les données.
Et il n'y a plus qu'à enlever la carte, parce que dans un PC récent, le lecteur disquette, ça ne se trouve plus. Donc voilà, là, on met la carte SD et hop, ou la clé USB.
Et c'est reparti. Et sur Amiga, par exemple, il y a de nouvelles cartes accélératrices qui sortent encore, notamment la Vampire avec un nouveau processeur à base de FPGA.
Et ouais, on vous en a déjà parlé. Alors côté Atari, c'est plutôt le remplacement par des machines plus puissantes, comme la Firebee. Qui est donc un compatible, plus ou moins compatible Atari, mais avec un processeur plus récent qui s'appelle le Coldfire. Et donc, il y a encore des gens qui développent plein de matériel pour ces vieilles machines. Il y a aussi l'aspect, t'en parlais Cécile, muséographie, oui. Restauration, documentation, parce que bah, tout ça, c'est un patrimoine. Et donc, en plus de l'utilisation des machines, plusieurs associations de passionnés cherchent également à s'assurer que les vieilles machines restent utilisables
le plus longtemps possible.
Ils œuvrent également à documenter le hardware et le logiciel et font un vrai travail muséographique sur une sous-culture pas forcément considérée jusqu'ici. Hein, et ça, c'est important à le dire.
Alors, on peut saluer nos amis de MO5.com,
ouais.
De Silicium, d'Aconit.
Voilà, Aconit, c'est à Grenoble. Hein, et puis, alors, Silicium, ils sont vers Toulouse. MO5, ils sont plus vers Paris. Et puis, il y en a d'autres, il y a WDA. Bon. Et sur le logiciel par exemple, au début c'était vu comme du consommable en fait, ceux qui éditaient les logiciels, et non comme des œuvres dignes d'être conservées, tout comme au début de la télévision on réutilisait les bandes pour enregistrer d'autres émissions, perdant au passage des épisodes de séries devenues mythiques depuis, et de nombreux éditeurs de jeux vidéo ont perdu les codes sources de leur production. De même, l'histoire de la création des machines se perd lorsque les entreprises ferment. Parfois, au hasard, on redécouvre des prototypes de machines et on doit alors rechercher son concepteur, s'il est encore vivant, pour trouver des informations, le contenu de les proms, enfin, pour pouvoir démarrer, quoi.
Après, effectivement, il y a beaucoup de logiciels qui tombent aussi dans le domaine public. Il y a des jeux vidéo qui tombent dans le domaine public, donc on peut les récupérer après pour jouer avec.
Alors, le domaine public, c'est pas tout de suite. Il y a le, il y a le Abandonware, ce qui est en fait, c'est un no man's land juridique, parce qu'en fait, quand on connaît plus l'auteur et tout, bah... Mais le copyright s'applique. Et le domaine public, normalement, c'est 50 ans après la mort de l'auteur.
C'est vrai. Donc,
pour
effectivement,
les
c'est l'abandonware.
C'est pas encore ça. Hein, donc...
Mais c'est l'abandonware, effectivement.
Mais voilà, c'est. Bon, normalement, on n'a pas le droit. Mais bon, des fois, quand on est obligé, quoi. Et alors, ainsi, l'histoire de Lauric Phoenix, donc contée par Fabrice Française dans l'émission CPU. On vous mettra le lien hein, sur notre blog.
AAA.fr.
Et voilà. Et puis, il y a d'autres histoires comme, bah, comme celle de la Boing Ball, hein, le symbole de l'Amiga, qui, elle, est quand même beaucoup plus connue. Alors je vous mettrai plein d'autres liens aussi pour aller plus loin, pour découvrir ça. Si vous passez à Bruxelles début février, ben, viendez nous voir au FOSDEM. Il y a toutes les assos que j'ai citées, il y a le projet de musée de l'informatique au CNAM. Il y a plein de gens qui mettent des vidéos sur YouTube, entre autres pour présenter leur projet de restauration de machines, la présentation, voilà. Ça, c'est
comment faire du rétro-bright.
Voilà, le rétro-brighting. Donc il y a The 8-Bit Guy, Retro Man Cave, il y en a plein.
Il y en a même des gens qui ressortent des coques d'anciennes machines, hein, qui refont des moules.
Ouais, qui refont des moules, qui font de l'impression, du moulage de plastique et tout ça. Il y a aussi des forums spécifiques aux machines. Hein. Il y a Defense Force pour Auric, il y a 68KMLA, c'est Macintosh Liberation Army, ouais, voilà, pour les vieux Mac. Il y a un forum pour les Next, enfin tout ça. Et puis, il y a aussi les applications de Raja aussi, on mettra le lien pour ceux qui ont encore un Atari.
Merci MMUN pour ta présentation de Retro Computing. Nous allons faire une petite pause musicale pour nous retrouver après pour l'agenda. Avec J'aime Require Time Don't Wait. Et c'était fait par Martha Alteza qui fait une bonne session basse. Donc voilà, c'était histoire de vous en faire profiter. Nous passons à l'agenda.
Et oui, donc rappelons que l'agenda, c'est celui
de la semaine
passée. Voilà, si vous écoutez la rediffusion le samedi.
Eh bien, qu'y est-il aujourd'hui ?
Bah, il n'y a pas grand-chose, j'ai pas trouvé grand-chose. Il y a une soirée libre G3L, comme d'habitude. Donc venez avec vos questions sur GNU Linux et les logiciels libres. C'est vendredi 18 janvier. De 19h30 à 23h30,
à peu près.
Voilà,
hein.
Suivant comment les gens sont fatigués ou pas.
Donc ça se passe à la MJC de Châteauvert à Valence.
C'est ça.
Nous allons regarder ce que dit la boule de cristal. Je frotte. Attention ! Hop ! Sysadmin, j'ai installé la supervision de nos serveurs pour avoir la supervision. On est obligé de se trimballer en collant bleu ?
Je sais pas. Macouné. iOS, si on lance notre iPad et les bugs apparaissent. Ouais, merci, mes belles. Hein. Voilà.
Technophile, si je fais un slam aléatoire, est-ce que c'est un des slams? Oh ouais,
No life, j'ai pas de problème avec les autres.
Ah bah non.
C'est vrai ça?
Non, il est no life. Nerds, j'aime bien les boîtiers en tech. En tech? Ouais, c'est un bois, le tech.
D'accord. Microsoft, ok, je lance CMD, mais où sont mes fenêtres?
Ça, je ne sais pas. Eh bien, merci amis auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. La semaine prochaine, retrouvez-nous pour les aventures proposées par notre ami Matt Bell, qui nous fera tout un cinéma de ses actions. À bientôt sur Radio Méga. Bye bye.
Bye bye.